Merci. Bon, je pense que la personne qui a beaucoup fait pour que les journaux soient considérés comme un genre littéraire, c'est Philippe Lejeune, avec qui je travaille à l'ITEM et qui est le créateur de l'équipe Genèse et autobiographie que je dirige depuis presque 20 ans maintenant. Donc voilà, je crois que c'est lui le grand théoricien des journaux et c'est lui qui m'a donné l'idée de regarder dans les archives russes ce qu'il y avait en français. Évidemment, je ne parlais pas russe quand j'ai commencé mes recherches là-bas et que je suis tombée sur tous ces journaux, de nombreux journaux rédigés en français qui n'étaient pas tellement étudiés à l'époque. Voilà, donc les matériaux dont je vais parler sont tirés de ce vaste corpus de journaux de jeunes femmes de l'aristocratie russe. Je dis jeunes parce que, bon, il n'y a pas que des jeunes femmes qui ont tenu des journaux. Il y a aussi des femmes plus âgées, rédigées en français, bien sûr. Mais l'âge de médiariste varie de 13 à 21 ans à peu près. Donc, pour l'essentiel, hein, de ce que je vais citer. Donc, ces journaux, peut-être que c'est ou que ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas tellement mon problème. Mais ce qui m'intéresse dans ces journaux, c'est qu'ils comportent de nombreux témoignages directs vécus de l'intérieur de ce qui se passe, de ce qui se passe dans la vie de ces femmes et en particulier de ces jeunes femmes. Donc, je vais aborder quatre points sans doute plus rapidement que prévu. D'une part, la langue française dans l'éducation des filles, des jeunes filles de l'aristocratie russe. Ensuite, je dirai quelques mots sur l'évolution du niveau de langue, du niveau du français dans ces journaux, entre les premiers qui sont de vers 1780 au dernier dont je vais parler qui date des années 1840. J'aborderai un point à cause du titre de ce colloque et du fait qu'en fait, on a fêté largement en Russie Borodino, 1812, etc. Donc, l'aspect, le rôle que joue Napoléon dans ses journaux, d'adolescente en fait. Et un dernier point sur les jugements de ces diaristes sur l'importance du français par rapport aux autres langues européennes. Voilà, ça fait un programme beaucoup trop vaste, je crois, pour les 20 minutes qui me sont imparties, mais bon, on ira vite et je sauterai des choses. Donc, la langue française dans l'éducation des jeunes filles, on sait généralement peu de choses sur l'éducation féminine, qui est le plus souvent privé, qui se passe donc dans le cadre de la maison. Et d'ailleurs, je dois dire que ce thème n'est pas du tout abordé de manière systématique par les diaristes, mais les journaux de ces adolescentes comportent de nombreuses informations sur les matières qui leur sont enseignées, sur les méthodes qu'on emploie pour leur enseigner, sur l'importance et le choix de leur lecture, sur le rôle formateur des voyages, puisqu'elles font beaucoup de voyages à travers l'Europe, sur leur fréquentation et sur leurs activités culturelles, et aussi dans quelques cas sur leurs ambitions professionnelles ou parfois le projet éducatif des parents, mais ça n'aboutit jamais puisque le but de leur éducation, c'est de les marier. Je rappellerai que le contexte de l'aristocratie russe est, en comparaison avec d'autres pays d'Europe, relativement favorable à l'éducation des femmes, uniquement au sein de l'aristocratie évidemment. Je ne m'étendrai pas là-dessus. Et donc, leur éducation commence dès leurs plus jeunes années au sein du cercle familial. Elle est généralement assurée sous forme de leçons à domicile par des gouvernantes étrangères et des professeurs qu'on rémunère, éventuellement en cas de problème financier par la proche parentèle. Ainsi, le programme que suit Yekaterina Soïmonova, âgée de 15 ans en 1826, comprend les matières suivantes. Histoire, je la cite, histoire ancienne, histoire russe, géographie, traduction de français en anglais, d'allemand en anglais, d'allemand en latin, puis danse, dessin, piano, chant, broderie, etc. Tous les arts d'agrément. Et donc ce programme d'études semble partagé par la plupart de ses contemporaines, d'après les journaux toujours, et on voit qu'il est principalement axé sur les langues vivantes et de manière approfondie. S'ajoutent généralement des cours de russe, donc c'est un peu curieux, mais elles ont des cours de russe, et souvent des cours d'italien. Et on ne se contente pas d'un savoir livresque, la pratique orale des langues étrangères se double d'une pratique, donc on le voit, de traduction écrite, Quant aux lectures, elles jouent un grand rôle dans les journaux, donc qu'elles soient solitaires ou en famille, on lit de tout, des romans, du théâtre, de la poésie, mais aussi des écrits à teneur philosophique, religieuse ou spirituelle, et surtout des mémoires et des ouvrages historiques. On lit aussi, c'est important de le signaler, très souvent dans la langue originale, le français bien évidemment, mais aussi l'allemand, l'anglais, l'italien, et parfois le russe. Les listes de lecture et des bibliothèques privées montrent qu'on n'hésite pas d'ailleurs à faire venir les livres de l'étranger dès leur publication. La poste marchait mieux à l'époque que maintenant. Il semble que d'après certains témoignages, l'enseignement du français soit partiellement lié, donc comme j'ai dit dans mon intervention, à des questions de gender. Donc, dans les journaux, il y a les journaux des filles dont je vais parler surtout, mais il y a aussi les journaux des mères qui parlent de la manière dont elles éduquent leurs enfants. Et par exemple, Elisaveta Alexandrovna Charovskaya mentionne dans son journal que l'apprentissage du langage se fait pour sa fille Natalia en français et pour ses fils en russe. Donc c'est vraiment le béaba, apprendre à parler. Il y a d'autres raisons qui font que l'apprentissage du français peut précéder celui du russe. On pense par exemple à ce qu'écrit la princesse Natalia Petrovna Galitsina dans « Remarques sur des événements de ma vie » en 1782 et 1783. Son cas est particulier puisque son père était diplomate, elle est née à l'étranger et elle a appris l'anglais et l'allemand et le français avant d'apprendre le russe. Bon, il y a un certain nombre de clichés qui sont répandus sur le rôle des gouverneurs, menins, précepteurs et des gouvernantes qui enseignent le français. Mais là, je renvoie à l'ouvrage de Vladislav sur ce sujet et je ne vais pas m'étendre sur ces clichés. Reste à souligner quand même le rôle du journal. Donc, ces jeunes filles, en grand nombre, écrivent, rédigent un journal, que ce soit un journal qu'elles rédigent sur place, là où elles habitent, à Moscou, à Pétersbourg, ou bien que ce soit un journal de voyage. C'est souvent, la moitié à peu près, sont des journaux de voyage. Donc le rôle éducatif que joue le journal, qui est donc extrêmement répandu, et dont la pratique s'exerce parfois sous surveillance. Le journal est à la fois donc un atelier d'écriture, une discipline quotidienne pour ces jeunes filles, un guide spirituel, une mise en mémoire du vécu, et le lieu d'expression, petit à petit, devient le lieu d'expression des sentiments et un prétexte également à la formation du style d'après des modèles littéraires. Voilà, donc ce que je peux dire de très bref sur l'éducation. Maintenant, se pose la question des niveaux de langue. Est-ce qu'on peut voir une évolution entre les premiers journaux en français qui datent de 1780 à peu près et les journaux plus tardifs et beaucoup plus nombreux des années entre 1820 et 1840, journaux en français toujours. Donc si l'on examine les premiers journaux en langue française, en particulier, bon bien sûr c'est un exemple peut-être un peu caricatural, mais je vais quand même m'appuyer dessus, le journal de Natalia Galitsina, qui est rédigé donc dans les années 1780, on se rend compte qu'elle écrit un français qui est un français totalement oral. Elle écrit, je pense, comme elle parle. Et donc, bon, bien sûr, la langue n'était pas encore tout à fait fixée à l'époque. L'orthographe et les accords ne l'étaient pas. La ponctuation, d'ailleurs, non plus. On peut voir, donc, elle écrit par exemple, « Mon père s'étant marié Catherine Outchakov, fut envoyé quelque temps après son mariage par l'impératrice Anne comme ministre plénipotentiaire à Copenhague, et de là il fut envoyé dans la même qualité à la cour de Berlin. Mon père s'étant marié », elle écrit S-E-T-A-N par exemple. C'est S-E-T-A-N au lieu de S-apostrophe et T-A-N-T du verbe « être ». Et tout est un peu comme ça, et qualité, elle écrit CA au lieu de QUA, Donc, quand on transcrit ce genre de journal manuscrit, parce que bon, j'ai pas dit que tous ces journaux, presque tous, sont inédits et sont sous forme de manuscrits, donc il faut les déchiffrer pour les transcrire, pour comprendre ce qu'ils disent. Et ça, c'est pas un travail si facile que ça. Hein. Donc, surtout quand on a affaire à quelqu'un comme Natalia Galitsina, qui écrit un français sans accord, sans ponctuation et avec beaucoup de mots qu'elle invente, elle écrit phonétiquement. Par exemple, mon père y étant ministre, ayant atteint l'âge de 2 ans. Elle ayant atteint, parce que la structure grammaticale n'est pas toujours claire non plus. Atteint, elle écrit A-T-A-I-N au lieu de A-T-E-I-N-T. Voilà, donc il faut déchiffrer ça à travers son écriture. Et en outre, il me semble qu'elle emploie beaucoup de germanisme dans son français. La situation est tout autre avec les journaux des années donc 1820-1840 qui présentent un français parfaitement fluide, malgré parfois quelques fautes d'orthographe dues à la jeunesse des auteurs, et qui présentent également, ce qui est intéressant, des aspirations proprement littéraires. J'en donnerai pour exemple les titres déjà de 2 journaux qui sont remarquables par leur humour. Il s'agit de celui de Anastasia Simonovna Khloustina. Son journal, elle est née en 1808. Son journal date de 1827 et 1828. Et elle l'a appelé « Lettres inédites ». Donc la relation journal-correspondance, bon, c'est un sujet à part. « Lettres inédites d'une sœur à ses frères » ou « Consolation de l'absence » ou « Journal pittoresque, burlesque et sentimental » de tous les faits et gestes de Mademoiselle Anastasie de Khloustine, 1827, ne se vend nulle part, pas même chez l'auteur. Écrit à Nice, Gênes, Milan, Lausanne et Genève. Et un autre journal qui est un petit peu plus tardif, qui porte aussi un titre très humoristique, c'est celui d'Elisaveta Vassilievna Davidova, qui elle est née en 1823. Et voilà le titre de son journal, « Journal voyageur et fantastique d'une jeune fille de 16 ans, édition première et dernière, ornée de beaux dessins de l'ouvrage de l'auteur, tome 1, Pise, Florence et Castellammare, 1840. » Donc, pour vous donner une idée du style de ces journaux de jeune fille, je vais vous lire peut-être un petit extrait. Du journal de Natalia Charovskaya, qui, ce journal, elle a écrit 3 journaux de voyage, un lorsqu'elle avait 13 ans, 2 journaux de voyage en Europe, un lorsqu'elle avait 14 ans et un lorsqu'elle a 20 ans. Donc ça, c'est le dernier journal, 1846, elle mourra l'année suivante à Rome de tuberculose. Elle arrive à Naples. Et là, je vous demande de remarquer l'emphase rhétorique et l'application stylistique qu'elle met dans ce texte. Peu de jours écoulés ici me prouvèrent parfaitement que Naples était toujours Naples. Moins beau qu'en été, il est vrai, mais toujours divinement et incomparablement beau. Où retrouverai-je ces montagnes aux contours vaporeux, ces teintes de velours, ces clairs de lune chauds et voilés ? Où trouverai-je toutes ces délices si ce n'est à Naples, terre des délices? J'ai tout cela maintenant à Naples, j'en ai déjà joui immensément, et pourtant je veux le revoir au printemps dans sa splendeur, dans son éclat, et hélas, c'est un vain désir, je ne le reverrai plus. Voilà, vous voyez qu'on a changé de style, et le maniement du français est tout autre que celui de Galitsina, par exemple. Et je citerai aussi l'incipit du journal d'Elisaveta Davidova, ce journal voyageur et fantastique d'une jeune fille de 16 ans, parce qu'il entre vraiment, même si c'est l'écriture du quotidien, et en fait dans son journal, bien sûr, elle note les événements quotidiens, pas seulement côté tourisme en Italie, mais aussi la vie de la famille, qu'elle s'occupe de ses neveux, etc. Elle raconte tout ça. Mais voilà comment commence son journal. Ces 2 premières feuilles devaient contenir le commencement de mon voyage à Pise que j'avais écrit sur une feuille volante. À Rome, j'ai enfin voulu le récupérer, mais je ne l'ai plus trouvé. C'est pour cela que mon journal commence d'une manière si extraordinaire. Pleurs, pleure de larmes amères, ô littérature, la perte d'un si beau morceau. Oui, il était beau. Je puis le dire maintenant sans crainte, car je suis bien persuadée qu'il ne sera jamais comme d'aucun mortel. Voilà, et elle se rappelle quelques passages échappés à l'inspiration d'un génie qu'elle note à la suite. D'une manière générale, ces journaux rédigés en français à partir des années 20 relèvent donc d'un niveau de langue raffiné et d'une excellente maîtrise de la langue française, même si le propos est parfois banal et répétitif. Et j'ajouterai que le russe, d'après ces journaux, est utilisé bien sûr par les diaristes à l'écrit parfois. Dans certains usages, j'ai fait une analyse du multilinguisme dans ces journaux qui est paru à la fois en russe et en français, dans des ouvrages qui s'appellent « Multilinguisme ». Et ensuite, Émilie Murphy vous en parlera aussi. Donc je ne m'étends pas là-dessus, mais on peut dire que le russe sert à ces jeunes filles qui voyagent à l'étranger de langue secrète, de langue de connivence, pour les plaisanteries, pour surnommer en général des garçons, des messieurs, qu'elles apprécient plus ou moins et qu'elles traitent de Medved, Chinook, etc. Donc je n'ai pas beaucoup le temps de m'étendre sur le rôle que tient Napoléon dans ses journaux féminins. Bon, qu'on peut considérer ou non, je ne sais pas, comme un symptôme d'acculturation. En tout cas, il est extrêmement souvent cité, Napoléon, et pas seulement Napoléon, mais toute sa famille, tous les membres de sa famille, sont cités dans ses journaux. Ces jeunes diaristes, mais surtout des années 1840, si on prend les journaux des années autour de 1812, le discours est tout autre, bien sûr. Mais autour des années 1840, ces adolescentes vouent un culte à Napoléon qui est absolument incroyable. Elles sont fétichistes, tout ce qu'elles trouvent, on leur vend des mèches de cheveux de Napoléon, soi-disant, à prix d'or. Elles récoltent tout ce qu'elles peuvent trouver, des statuettes, toutes sortes de choses. Et tout ce qu'elles entendent dire sur Napoléon, elles le notent soigneusement dans leur journal. Elles notent vraiment tout ce qui a rapport à Napoléon, et il y en a des pages et des pages. Et bien sûr, dans leur visite des monuments, elles visitent les Invalides et il y a une grande page d'enthousiasme sur la visite des Invalides. Il y a aussi, elles vont dans tous les lieux où a été Napoléon, sur les bateaux, la belle poule, etc. Bon, elles racontent tout ça, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus, bien que ce soit intéressant. Donc, ma dernière partie, c'est l'évaluation du français et des autres langues européennes par ces jeunes filles, par ces diaristes. Donc, ce qui est vraiment frappant, c'est qu'il n'est jamais question, elles ne se questionnent pas sur pourquoi elles écrivent en français. Ça, on ne trouve pratiquement rien là-dessus. C'est une évidence. Bon, est-ce que c'est un ordre qu'on leur a donné ou pas, ça on ne sait pas. Souvent on leur offre le support de leur journal, quelqu'un de la famille, mais le fait qu'elles écrivent en français, ça va de soi, à quelques réserves près. Donc elles mêlent dans leurs textes des mots et des expressions russes, surtout des anthroponymes et des toponymes, mais aussi des termes spécifiques qui relèvent de la religion, de la gastronomie, etc., ou bien des phrases qui relèvent du monologue intérieur ou d'un dialogue, d'une conversation qu'elles rapportent. Si la conversation a lieu en russe, souvent elles l'inscrivent dans le journal en russe. Si elle a lieu en allemand, elles l'inscrivent en allemand. En italien, elles l'inscrivent en italien, et tac d'ali. Voilà. Donc, il y a un contre-exemple, c'est celui de la princesse Maria Volkonskaya, qui dès l'âge de 5 ans connaissait parfaitement le français comme sa langue maternelle, mais tient son journal en russe pour s'exercer dans cette langue, dit-elle, et pour valoriser, donc, en tant que patriote, sa langue maternelle. Donc, ce qu'on trouve dans ces journaux, ce sont des jugements comparatifs, comparatistes, entre les différentes langues. Et puis, on trouve aussi des jugements sur les personnes qui maîtrisent mal le français. Par exemple, dans le journal de Natalia Charovskaya, ce journal où elle a 13 ans, son premier journal de voyage, elle écrit de Klagenfurt en 1841. Monsieur Louchkov était encore chez nous. Il me faisait honte devant les deux Lassalle. Les deux Lassalle, ce sont des amis français de la famille. Il a de si vilaines manières, il prononce si mal le français et il est si impoli. Les deux Lassalle sont à cause de lui, je suis persuadée, ont à cause de lui, pardon, je suis persuadée, une très mauvaise opinion des messieurs russes. Voilà, donc il n'était pas un bon représentant. Et je trouve que les deux Lassalle auront raison, car malheureusement, nos messieurs, en comparaison des Français, ont l'air très peu distingués, sauf ceux de ma famille. Voilà, donc on trouve ce genre de jugement, et inversement, bien sûr, la parfaite maîtrise du français est une véritable marque de distinction. Et là, je vais citer le journal d'Anastasia Simonovna Khloustina, donc qui est devenue l'épouse d'Adolphe de Sirecourt, et qui écrit dans son journal en 1827, à Genève, tenu à Genève le 30 juin 1827. Il y avait entre autres, à une réception, le prince Suzzo, ancien gospodard de Valachie, un des hommes les plus aimables et les plus spirituels que j'ai jamais rencontrés. Il a gardé son costume qui embellit encore plus une figure noble et régulière. Sa barbe noire, son turban, son large manteau, sa ceinture de cachemire, des savates rouges, des manches juste serrées par une quantité de boutons en or, le tout formait un contraste frappant avec les Européens qui l'entouraient. On était surpris d'entendre sortir de cette bouche recouverte par de grandes moustaches le français le plus pur, le plus élégant, le plus spirituel. Voilà, et enfin, je vais terminer, on trouve surtout des comparaisons entre différentes langues, les différentes langues connues par ces jeunes filles, puisqu'elles parlent bien sûr et écrivent non seulement le français, mais les autres langues que j'ai citées. Et voilà, donc il s'agit de comparaisons entre le français, le russe, l'allemand et l'italien en général. Voilà ce qu'écrit Elisaveta Alexandrovna Charovskaya, qui est la mère de Natalia, que j'ai citée tout à l'heure, en 1821. La langue française ne se refuse pas aux besoins de l'imagination. Elle est même admirable pour peindre en poésie les mouvements des passions et les affections du cœur. Mais la langue italienne est plus harmonieuse et plus tendre. L'espagnole, plus majestueuse et plus romantique. Il est rare qu'on mentionne l'espagnole. L'allemande, plus riche et plus métaphysique. L'anglaise, plus hardie et plus libre dans ses inventions et dans sa marche. Et Khloustina, donc, lui répond en quelque sorte « Les sentiments qui sont exprimés par des phrases touchantes et bien arrondies ne me sensibilisent guère. Les Français ont une grande facilité d'exprimer avec un air naturel ce que souvent ils ne sentent pas. L'affectation qu'ils sucent avec le lait s'identifie avec toutes leurs pensées, si bien qu'elle devient une seconde nature et produit de l'effet, et produire de l'effet étant le but de toutes leurs actions, ne leur donne même plus la peine du calcul. Je ne veux pourtant pas dire une malice. Nous avons été à même de voir dans l'intimité les Français les plus distingués dans toutes les différentes sociétés, et j'avoue que je n'ai pas vu une seule femme qui eût vraiment du cœur. » Voilà, alors, une sur l'anglais, pour faire plaisir quand même aux Anglais. « J'aime beaucoup la langue anglaise, » écrit-elle toujours, c'est toujours Anastasia Khloustina, « J'aime beaucoup la langue anglaise, pour tout ce qui est raisonnement, elle est claire, précise, ne permet pas la prolixité, et peint assez bien tout ce qui est abstrait et profond. La langue française n'est pas, à mon avis, assez énergique pour jouir, n'est pas assez énergique pour les vérités d'une morale relevée. L'allemand est trop vague, les philosophes de Göttingen ne comprennent pas souvent eux-mêmes ce qu'ils veulent exprimer, leur langage s'en ressent. En général, il me semble que les langues ont toujours du rapport avec les peuples. Ainsi, l'anglais est précis, l'allemand obscur, le français léger, le russe plein de sensibilité et d'énergie, l'italien mou. Bon, je vais m'arrêter là parce que j'en ai d'autres, j'en ai beaucoup.